sensible, désir, sexuel. Le festival d'amour. Il faudra les lire quand le courage de vivre, d'aimer et de faire la révolution viendra à nous manquer. Ces quelques mots sont d'Anne Pauly. Ils sont écrits dans la superbe préface de l'anthologie douteuse. Ce livre, c'est 10 ans de fanzine, 10 ans d'écriture, de lutte, de sexualité, avec un peu d'extraterrestres, quelques comédies romantiques et énormément d'amour. Donc c'était évident que pour ce premier date du Festival d'amour, j'allais recevoir Élodie Petit et Marguerin Lelouvier des éditions douteuses. Élodie, Marguerin, merci pour vos mots et merci pour vos fleurs. C'est parti ? L'anthologie douteuse, certains et certaines d'entre vous l'ont déjà eu entre les mains et donc savent un petit peu à quel point il est merveilleux. C'est une édition de 10 ans d'archives, en fait, de vos créations littéraires. Vous en parlez dans le livre, mais pour ceux et celles qui ne l'auraient pas lu, est-ce que vous pourriez nous présenter qui sont les éditions douteuses ? Qui êtes-vous chez les éditions douteuses ? Comment s'est créée cette aventure littéraire ?
Tu veux commencer ?
On est deux amis, surtout, et on s'est rencontrés amicalement à travers nos lectures et nos écritures ensuite, mais on est des amis qui aiment beaucoup lire et se faire passer des textes et écrire, se faire lire ce qu'on écrit, etc. Et puis c'est né d'une amitié un peu comme ça. Et Elodie a commencé à faire des fanzines pour diffuser ses poèmes. Et elle m'a montré comment faire un fanzine en pliant une feuille A4 en deux. Et ensuite en la distribuant à des prix réduits sous le manteau. Du coup, c'est né comme ça d'une espèce de transmission de savoir-faire et puis désir d'échanger des textes, écrire des trucs qu'on avait envie de lire nous, surtout, je pense, des textes un peu punk, énervés, crus, sexuels. Et du coup, Elodie m'a proposé de rejoindre les éditions douteuses. Donc, c'est une espèce d'entité qui nous dissimule. Enfin, c'est pas une maison d'édition, c'est nos chambres respectives avec notre imprimante de bureau. Et en fait, il n'y a pas de maison d'édition.
C'est un leurre.
C'est vraiment du foutage de gueule, en fait. Donc voilà, il y a un duo qui est né comme ça.
Ce qui est dingue avec ce livre-là, c'est qu'effectivement, du coup, il rassemble 10 ans de textes et de travail. Et une fois qu'on le voit sous un format de livre, parce que tout à la base, ce sont des fanzines qui sont éparpillées. Il y en a même qui ont été publiées des fois à 20 exemplaires et qui n'ont jamais refait surface après. Enfin, c'est vraiment et là, de voir une compilation comme ça, c'est puissant, en fait, de voir une somme, en fait, et de travail, parce que des fois, je sais pas, tout est fait tellement dans une spontanéité. Et c'est ça aussi, le fanzine, ça répond à une urgence, et du coup tout est fait tellement dans le présent et comme ça qu'en fait, ça venait d'un seul coup, en fait, marquer 10 années de travail et d'amitié. En fait, c'est très beau parce qu'on s'est rencontrés quand on avait 18 et 19 ans aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, enfin, donc c'est très beau. C'est une histoire d'amour. En fait, c'est une histoire d'amour, bien sûr. T'as vu juste, quoi.
Ouais,
parce que c'est ça, quoi.
Ouais. Je ne me trompe jamais.
Dans le mille.
Après, ce qui est super touchant, en fait, c'est les préfaces qui accompagnent le livre. Donc, évidemment, on découvre une autre façon vos écritures, parce que chacune, vous avez quand même une langue qui vous est propre, des narrations qui vous sont propres et des façons, en fait, de situer vos histoires de manière assez singulière. Elodie, d'une manière souvent quand même très franche, très crue, très honnête. Enfin, il y a quelque chose dans ton écriture qui ne laisse pas la place au trop-plein. Tu nous dis, tu nous mets vraiment le nez directement dedans, et dans tes mots, dans ta langue, dans ton le son, le rythme, etc. Contrairement en fait à Marguerin, qui est des phrases beaucoup plus amples, une narration beaucoup plus suivie, quelque chose où des fois j'ai un petit peu reconnu l'histoire un peu du conte ou de la fantaisie, quelque chose qui se dit hey, venez par ici, j'ai quelque chose à vous raconter. Et donc nous, on appréhende ça parce que c'est vrai qu'un livre aussi beau, mais vraiment il est très très beau, il est rose fluo avec un titre à paillettes quand même. On a envie juste de l'ouvrir. Oui, c'est ça. Oups. Et on tombe sur des mots et c'est comme ça qu'on est attrapé en fait. Mais une fois qu'on lit ces deux préfaces, en fait, on vous découvre de manière plus structurée peut-être, par des gens qui vous connaissent. Qui ont l'air, en tout cas, de vous connaître très bien. Et là, on est à un moment de l'intime, tout de suite, en fait, qui pourrait être un peu étonnant ou impressionnant, en tout cas. Comment ça a été pour vous de demander l'écriture de ces préfaces? Est-ce que ça a été tout de suite immédiat, c'est Anne Pauly qui va... ou pas du tout, il a fallu... un petit peu chercher, se demander comment on se sent légitime de demander aussi une préface... Enfin, j'imagine que c'est un travail qui est quand même assez particulier, en fait, d'écrire une préface.
Bah oui, oui. Et en plus, quand on a demandé à Anne, ça l'a vraiment touchée et elle m'a dit, mais moi, je sais pas écrire. Enfin, c'est vrai que c'est une responsabilité quelque part d'écrire une préface. Mais ça nous paraissait évident que c'était à Anne qu'il fallait demander parce qu'elle est très sensible à une culture LGBTQ. Aussi à une littérature PD, parce qu'on vient quand même d'une littérature PD tous les deux avec Marguerin. Aussi parce que dans Anne Pauly, elle est à l'origine de Lod & Prod, qui est un festival queer à Paris, un festival des cultures queer à Paris. Et enfin, ils sont plusieurs, ils sont trois en tout, mais Anne en fait partie. Et donc elle a vraiment aussi une conscience des cultures alternatives, aussi une conscience des classes. Et en fait, elle avait tout ça, en fait. Elle rassemblait, en fait, et aussi, en fait, une sensibilité et l'envie qu'on avait pour entrer dans ce... On voulait, évidemment, un portrait sensible ou quelque chose de... Enfin, voilà. Et du coup, Anne, elle rassemblait tout ça, c'était un peu évident pour nous.
Mais elle est... Enfin, c'est très touchant et...
On a bien pleuré en la lisant la première fois.
Mais et ça participe à ce que tu disais juste avant de ces 10 ans d'archives, en fait, qui sont enfin... Ouais. Ensemble, empaquetés, parce que, par rapport aux fanzines, comme tu disais, et qui vont faire, le principe du faire archive, je trouve qu'il est important, en fait, dans la culture queer, mais et dans toute, la culture anarchiste, ou dans ces cultures qui généralement sont très, en effet, dans la spontanéité et dans le lien direct, en fait, et de pouvoir garder ces livres-là, ou ces enregistrements, ou des vidéos, etc., c'est aussi faire trace, en fait, dans l'histoire. Il y a eu, j'imagine quand même, quelque chose d'assez impressionnant dans cette idée de faire trace et de... est-ce que vous vous êtes dit, on prend tout ce qu'on a écrit? Tout? Ou est-ce qu'il y a eu quand même une sélection? Parce que, même s'il est assez important, vous êtes sur du presque 300 pages, je crois, il y a 300 pages. Est-ce que c'est vraiment tous vos écrits de 10 ans?
Oui. on a tout gardé, même le plus nul à chier. Donc,
même le plus gênant.
Mais au-delà de garder les textes, la question qu'on s'est beaucoup posée, c'est est-ce qu'on devait les retoucher, les améliorer, parce que quand on lit des trucs qu'on a fait il y a 10 ans, quand on était plus jeune, même au point de vue de l'écriture, on se dit mais c'est pas bien. Ou c'est pas très très bien, donc est-ce qu'on doit les mettre dedans ou est-ce qu'on doit les réécrire complètement? Elodie, même moi, mais t'as eu un moment de panique aussi en disant quelle horreur, enfin, je peux pas montrer ça, c'est pas possible. Et en fait, c'est cette continuité de tout mettre bout à bout chronologiquement, en fait, qui rend aussi le truc assez chouette, et surtout que c'est des textes qui sont ancrés dans nos vies, dans nos intimités, dans les contextes sociaux aussi des 10 dernières années qui étaient hyper mouvementé pour les vies queer, quoi, parce que quand on a commencé à écrire, c'était, par exemple, il y a eu la Manif pour tous, mais c'était aussi les années Hollande, puis Macron, enfin, en filigrane, on lit un peu tout ce qui s'est passé à cette époque-là en France, et du coup, c'était important de garder les textes aussi dans leur, côté brut, quoi, et pas. Du coup, il y a un moment où on s'est dit bon, soit on retouche tout, soit on garde tout comme ça. Et finalement, on a tout gardé. Ouais.
On a trouvé. En fait, on a écrit cette petite phrase au début du livre qui dit vraiment que peut-être on réécrirait pas les choses de la même manière, mais que qu'en tous les cas, on a décidé de tout conserver en l'état, aussi parce que ça nous paraissait... Enfin bon, en fait, faire archive et genre une anthologie, c'est le but, en fait, c'est quand même de tout livrer d'une manière sincère. Et en vrai, c'est assez beau aussi de voir comme l'écriture se déploie, ou peut-être la confiance dans l'écriture ou dans la langue, et les endroits qu'on choisit, les endroits qu'on délaisse, et le vocabulaire. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point le vocabulaire répond à une époque précise, et quand on relit... Enfin, par exemple, moi, j'emploie toujours le mot... j'emploie beaucoup le mot « pute » dans mes premiers textes. Et genre, je me dis, mais plus jamais, genre, j'écrirai ça, genre, 10 ans après. Mais c'est, en fait, c'est juste... Tout ça, c'est des... C'est... Enfin... C'est puissant quand même de revenir sur des... Ouais. Voilà, ça a posé en tous les cas énormément de questions.
Parce que le vocabulaire militant, il change aussi beaucoup.
C'est ça, très fort.
Et il fait changer aussi les perceptions qu'on a de soi, du monde, des rapports sociaux. Et du coup, c'est clair que le vocabulaire militant, il fait qu'on se découle les paupières aussi au fil du temps. Et du coup, c'est aussi assumer le fait que des textes peuvent être problématiques. Et c'est pas grave parce que c'est pas forcément la fonction de l'art de répondre aussi, enfin d'être dans des clous, d'être, enfin du coup on a assumé un peu tout comme ça en disant que en fait c'est pas grave, on évolue et l'écriture aussi elle évolue. Et
vu qu'en plus on est quand même sur des quelque part une sorte de langue de la provocation, on aime bien quand même mettre les pieds dans le plat, et que c'est ça aussi notre envie. Alors c'est juste des fois ça fait peur parce qu'on est quand même à l'heure actuelle là tout de suite dans des moments où c'est compliqué de dire des fois tout, enfin, et où ça peut ça crée des courts-circuits mentaux. Voilà. Voilà. Mais tout un texte classique. Tout est vrai.
Parfait. À la lecture de l'anthologie, quand, comme moi, on se décide de tout lire d'un coup, mais c'est un exercice vraiment intéressant dans ce constat, en fait, de l'évolution de la langue et des sujets. Et ouais. C'est vrai que je trouvais ça marrant comment sur certaines périodes il y avait des thématiques récurrentes, des choses, des images. Et je me rendais compte par exemple que tous tes premiers textes, on avait l'impression vraiment que c'était des hommes que tu faisais parler. Et à force en fait de vous lire, je me suis dit mais en fait l'homme cis hétérosexuel a énormément de place en fait dans vos écrits et dans vos fictions. Et je me trompe ou parce que non j'en sais rien hein, mais j'ai l'impression tu vois enfin vous faites beaucoup parler les hommes et leur sexe faut quand même se l'avouer
parce que ça prend beaucoup de place dans la vie et dans le enfin ouais
mais complètement mais ouais. Surtout au début du recueil
tu vois donc par exemple parce qu'en fait c'est toujours ce qui est intéressant c'est de toujours resituer 2010 moi je suis encore aux Beaux-Arts je suis sortie des Beaux-Arts en 2011 clairement à ce moment-là j'écris aussi dans une rage de ce que je vis en fait au quotidien, c'est-à-dire être dans un milieu artistique peuplé d'hommes, fait pour les hommes, où en fait c'est vraiment une bataille en fait de tous les jours pour genre je sais pas se faire respecter et être, enfin bon, en tous les cas genre j'ai une colère très forte et c'est vrai que au départ il y a vraiment une je veux dire c'est aussi une manière de purger en fait quelque chose enfin évidemment en fait l'écriture elle sert à ça et ça m'a fait du bien en fait de passer par ce moment-là mais aussi parce que j'ai toujours été intéressée par l'écriture sexuelle ou érotique que c'est quand même un terrain littéraire qui est très monopolisé par les hommes et que ça m'a toujours paru intéressant de récupérer cette langue et d'en faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'après, maintenant, je fais sortir tout le langage masculin de mes textes.
Ouais. Mais c'est pour ça que ça m'a étonnée. Mais parce
c'est
que, enfin, j'ai eu la chance de te rencontrer sur cette langue très au féminin, en fait, ouais. De mettre les choses. Et donc, ça m'a, enfin, quand je me suis replongée dans ces lectures, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pas imaginé d'avoir cette impression inverse en fait même ouais. Si il y a Patricia Cass qui est dans les premières aussi et non mais vraiment cette anthologie est pleine de surprises mais le fils du chien
Fils de chien.
Le fils de chien, c'est quand même un texte qui fait sens dans tout ce que tu viens de raconter. Ouais. Enfin, du coup, ça raccroche en fait l'explication. Au début, enfin, j'étais surprise. J'ai été surprise. Mais il fallait se rappeler qu'on était en effet en 2010.
Et après, il y a aussi, genre vraiment quand tu commences, et aussi j'intervenais dans des milieux de la poésie contemporaine où c'est, enfin, où il y a que des mecs. C'était, en fait, pour moi, c'était une manière à un moment donné de d'être dans la provoque et de prendre de la place. Mais en fait, j'étais, enfin, bon, c'était en 2010, on est en 2022, j'avais. Enfin, j'étais aussi plus jeune et j'étais dans une, une colère. J'avais besoin de prendre ce territoire-là. Mmh. Maintenant, j'en ai moins besoin. Je le prends autrement. Mmh. Mais c'est vrai que c'est ça, cette langue.
Ouais, mais qui est, qui fait toute la complexité aussi de qui tu es et de ton passé. Et de, enfin, à un moment donné, je trouve que c'est assez courageux aussi d'aller déterrer les textes de nos rages passés. Il faut se, enfin, parfois, on aurait envie de se dire qu'elles sont vraiment passées et qu'on n'a pas envie de les relire. Mais là, de se dire, si, elles ont existé et elles font sens dans mon process, etc., c'est un endroit de grand courage, moi, je trouve. Donc, voilà. Et en le lisant, ça m'a perturbée, mais ça va. J'ai survécu. Marguerite, on te découvre, si je ne me trompe pas, sur un premier texte où tu parles d'homosexualité et de plutôt, encore une fois, j'ai été surprise, mais bon, voilà, ça va être mon langage récurrent. Cet endroit, en fait, de narration où en fait, tu racontes l'homosexualité, enfin, tu expliques comment serait l'homosexualité au corps. C'est un texte qui peut mettre un petit peu mal à l'aise si on, en fait, enfin, j'espère, en tout cas, que j'ai bien lu avec un peu d'humour. Enfin, que beaucoup d'humour. Ok, super. Parce que je me suis dit, mais jusqu'au bout du bout, ce texte, il est quand même. Enfin, tu as une langue magnifique où tu articules. Enfin, je trouve que tu articules super bien toutes les idées que tu démontres et tu arrives à convaincre et à. Enfin, tu vois, tu donnes toutes tes pistes comme ça d'expliquer l'homosexualité, ce qu'est l'homosexualité au corps. De ce fait, c'est vraiment ton premier texte de cette dizaine. Et donc, c'est directement, en fait, sur cet endroit-là de narration que tu t'es positionné.
Dans la narration, ce texte, il est particulier parce que j'ai fait du cut-up à partir d'un bouquin qui existe vraiment, qui s'appelle Homosexualité, qui a été rédigé par un pseudo-scientifique dans les années 60. Et qui, en fait, c'est un livre de théorie sur la biologie de l'homosexualité. Et à une époque, c'était très, c'était une littérature hyper, très lu et qui en fait servait à légitimer les thérapies de conversion parce que en gros si on est homosexuel c'est parce que on a une déficience hormonale ou que on a une mutation génétique, c'était comme ça qu'on expliquait l'homosexualité et en fait ça me paraissait amusant d'exhumer ce texte dans le contexte qui était celui de la manif pour tous justement. Parce qu'il y avait un retour à des idées essentialistes à ce moment-là, mais dans la frange gay et lesbienne, en disant que si on doit se faire, si on veut se faire accepter, on va devoir trouver des raisons, peut-être dans la nature ou dans l'ordre naturel des choses, etc. Et donc dans la biologie aussi. Et à l'époque, à la télé, il y avait beaucoup de documentaires qui passaient sur les moutons homosexuels, les mouches sodomites, etc. En disant, regardez, ça existe dans le règne animal, donc c'est tout à fait normal, on va accepter, vu que les animaux aussi le font, donc il n'y a pas de raison. Et en fait, pour moi, c'était du bullshit intégral de réfléchir comme ça, alors que c'était tout l'ordre en général qui devait être questionné. Et en fait, c'était un bon prétexte pour les hétéros de pas se poser de questions, vu que si... ça permettait en fait, de séparer encore plus les choses en disant, il y a les homos qui sont mutants et il y a les hétéros qui sont pas mutants. Et tout le monde doit vivre en harmonie, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et du coup, ce texte, c'était une façon de critiquer ça de manière un peu grinçante et de rappeler aussi que c'est des idées qui ont mené à ce que les homosexuels soient traités par électrochoc et compagnie, enfin par injection d'hormones et tout. Donc voilà, c'est un texte un peu sombre, mais des fois, c'est difficile d'en capter l'ironie. Et j'ai eu des gens qui l'ont lu vraiment au premier degré. Mmh. Et du coup, non, c'est un texte humoristique, mais Mais bon, voilà.
Mais c'est tellement proche de discours qui, malheureusement, sont encore entendus, en fait, qu'il y a quelque chose, oui, qui désarçonne, je pense. Après, quand on lit la suite, alors je sais plus... je pourrais faire semblant de me souvenir exactement chronologiquement de toute l'écriture de vos textes, mais non, c'est plutôt un souvenir. Mais quand tu parles des extraterrestres, tu poses la question, est-ce que il existe des sondages sur le pourcentage d'homosexuels qui sont kidnappés par les extraterrestres, etc. Et tout ce déroulé-là du texte, bah, si là on n'a pas compris en fait qu'il y avait quand même une distance, on a loupé complètement le sens, quoi. Mais c'est vrai que si on garde que ce premier texte séparé, il peut en effet mettre très mal à l'aise, mais ce qui est aussi un bon endroit, faire réagir, bouleverser, déplacer, c'est toujours intéressant. Mais ce texte sur les, enfin, il est absolument génial. J'adore avec la récurrence de la question de, non mais enfin, je peux poser la question, mais je, enfin, est-ce que vraiment on a des chiffres? Parce que, mais ça fait, en plus, t'es dans un sens. C'est-à-dire que c'est pas de la blague ou des choses faciles. C'est que tu crées vraiment un sens de narration autour de ces endroits-là qui peuvent faire sourire, en fait.
En fait, c'est encore dans la veine cut-up parce que, au début, je récupérais beaucoup de matière sur Internet, notamment, et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai à peine retouché. Enfin, j'ai pas mal retouché, mais c'est vraiment une vraie conversation. Enfin, j'ai tapé homosexuel, enlèvement extraterrestre dans Google.
Faut déjà avoir l'idée. Enfin, on peut carrément avoir l'idée, quand même, à la base.
En fait, t'as plein de conversations et théories hyper intéressantes, et c'est incroyable. Et du coup, j'ai traduit ce que c'est des forums américains. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens enlevés par les extraterrestres aux États-Unis. Enfin, c'est une croyance très, très forte. C'est même pas une croyance, c'est des gens qui sont vraiment persuadés, enfin, qui ont eu une expérience très, très vivante et concrète d'un enlèvement et qui peut s'expliquer plein de façons. Et donc, du coup, il y a plein de théories sur, est-ce que vous pensez que les homosexuels sont plus enlevés? Si oui, pourquoi? Et du coup, il y a plein de discussions comme ça. Enfin, bref. C'est très, très intéressant.
Pendant que nous sommes avec les extraterrestres, avec Marguerin, toi par contre, Elodie, dans mon souvenir, en fait, tu sors d'une certaine fiction et j'ai l'impression que c'est des moments où tu parles plus de toi, de comment tu t'es construite en tant qu'artiste, de comment tu situes ton art, ta poésie, ton écriture, etc. Dans cette période-là, alors je me souviens plus si c'est pas quelque chose comme 2016 ou... on a quand même fait un petit saut. Enfin, on est plutôt à la moitié, en fait, de l'anthologie, on va dire. Et j'ai ce souvenir de texte vraiment très... absolument bouleversant, en fait, sur toi qui décide de te mettre au centre, en fait, de ton écriture, de plus utiliser fils de chien ou voilà tout ça pour passer tes émotions, mais là, de vraiment dire c'est moi, en fait, c'est moi et tout ce que je suis. C'était une période où tu as eu besoin... Enfin, j'imagine, enfin... Hein, c'est une fausse question, mais de te recentrer comme ça et de te mettre dans ton art encore plus à nu, peut-être.
Je sais pas, parce que j'ai pas constaté ça, parce que j'ai jamais réfléchi ça.
D'accord.
Qu'est-ce qui a pu avoir changé? Je sais pas. Il y a peut-être, je sais pas.
Après, c'est peut-être que dans ma tête, hein. Ça arrive aussi ce genre de choses.
En fait, ça me fait un choc quand je relis ce texte.
Quel texte?
C'est tu commences par J'ai 30 ans.
Oui. Ah, on sait plus pourquoi on vit et ça dérape.
Ouais.
Parce que peut-être, oui, effectivement, peut-être il y a un truc. Mais bon, ça, pour le coup, ça a été écrit. C'est un texte que j'ai écrit qui est une sorte de témoignage sur mon parcours en école d'art et vraiment ma construction en tant que meuf, poète, artiste. Et c'est vraiment. Mais c'est un texte qui est sorti comme ça, qui est sorti. Finalement, je l'ai écrit 5 ans avant MeToo. C'était vraiment encore une fois, un peu la haine, quoi. Mais vraiment aussi une... c'est sorti d'un coup et ça m'a vraiment fait du bien. Mais c'est aussi, ça vient à un moment où je suis dans une hyper-précarité. Une hyper-précarité, enfin voilà, c'est ça quand tu décides en fait d'être artiste. Après, ça arrive à un moment donné, c'est marrant parce que j'en parle pas là-dedans, mais j'ai eu un accident hyper grave à ce moment-là, un accident de vélo, et j'ai failli crever. Et genre, c'est vrai que c'est ce moment en fait, j'ai 30 ans. Genre, c'est un espèce de bilan peut-être, et quelque chose de très fort qui s'annonce après. Et c'est vrai qu'à mon avis, c'est ça que tu as senti.
Ouais.
Mais que, donc, en fait, j'en parle pas, mais il y a quand même quelque chose de la construction, d'une affirmation aussi en tant que Gwyn, d'un truc, d'une identité très forte que j'ai besoin d'assumer plus. Enfin, des trucs comme ça, en fait.
Donc c'est vrai que le jeu, il est peut-être plus investi ou d'une manière, en tous les cas, vraiment différente. Mais bon, finalement, c'est toujours la même chose qui dirige le truc, quoi.
Oui. Ouais. Mais j'ai l'impression, comme avant tout ça, on a eu des personnages à qui s'accrocher. Et t'as une tendance à écrire aussi en réplique, avec des personnages qui se répondent, un peu comme du théâtre, qui ressemble très fortement à qui est du théâtre. Et donc, quand le jeu arrive, quand comme moi, on lit beaucoup d'affilée, en fait, il y a quelque chose de très fort. Parce que, ben, évidemment, le jeu, j'ai jamais pensé qu'il n'était pas toi. J'ai imaginé penser que c'était toi.
Oui, mais il n'est pas toujours moi.
Ouais.
Ouais.
Mais en tant que lectrice, de ce fait, il y a ce côté vérité, bim, quoi. Enfin, hyper surprenant d'une langue vraie, quoi. Mais après, j'imagine tout l'art, en fait, aussi, c'est que, en tant que lecteur et lectrice, on ne sait pas. Enfin, on ne saura jamais ce qui est vraiment vrai et encore ta vérité.
Parce que nous-mêmes, on le sait, quoi.
Mais oui, exactement. La vérité de l'écriture, elle peut être en fait hyper différente de la vérité.
Même si, en tous les cas, de toute façon, c'est une vraie volonté que j'ai d'écrire d'une manière la plus proche de ce que je ressens ou de ce que je vis ou de ce que je fréquente ou un truc comme ça. Il y a quand même une volonté d'être ultra sincère et ça me fait penser à Dorothy Allison et que j'aime très fort et qui parle comme ça de vérité, de manière de parler de ce qui te touche. Et c'est comme ça que tu touches à l'universel. De toute façon, on le sait, c'est en parlant au plus proche de ce que tu, trépasses, vis, ressens.
Oui.
Ouais.
Et qui est une littérature qui, heureusement, est un tout petit peu plus accessible en ce moment. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus, en fait, d'éditions, de textes qui touche à cet instant-là de vérité, de vitalité, de pas cacher, de et peut-être beaucoup dans la poésie d'ailleurs, des choses crues, des choses dures, des choses vraies, mais qui viennent aussi réconforter en fait de beaucoup de personnes qui vivent d'une certaine manière les mêmes choses et qui n'auraient jamais lu en fait ce type
Mais ouais, et aussi d'ailleurs t'as raison de le soulever, mais un vrai regain d'intérêt pour une langue poétique et des éditions de poésie, en fait c'est quand même assez dingue, en fait tout ce qui émerge, en fait, parce que enfin c'est vrai que nous, ça fait des années qu'on fait aussi des fanzines de poésie, parce que si à un moment donné on veut voir circuler ce qu'on écrit, ben il n'y a pas la place pour ça dans des éditions classiques ou littéraires. Enfin, c'est toujours quand même un truc très à la marge, encore plus en France, dans le paysage français. La poésie, c'est tout est fait pour t'en dégoûter dès l'école, et pour que ça te mette mal à l'aise, parce que c'est une langue qui est très lyrique et pointue, écrite par des hommes blancs. Enfin, c'est complètement genre loin de toi ce que tu es en train de vivre quand tu lis ça. Alors qu'il y a toute une marge de la poésie contemporaine et politique qui est pas visible, en fait. Et en fait, par exemple, c'est quand même un endroit qui est très on pratique beaucoup la poésie outre-Atlantique ou même en Allemagne. Enfin, c'est un truc qui est beaucoup plus populaire, mais en France c'est quelque chose qui est intouchable.
Ouais, mais qui commence à être touché.
Ouais, mais il est temps. Ah
oui, je suis d'accord.
Parce qu'il y a tellement de choses.
Évidemment.
Qui se font,
c'est toujours trop tard. Mais en même temps, moi je remarque quand même qu'il y a des maisons d'édition qui se montent aussi sur des projets de cette poésie engagée, politique, de ces langues rageuses, de ces et dans des, enfin. Ouais. C'est hyper énergisant, quoi. Parce qu'on est, tu parlais de MeToo, etc., mais on est quand même dans une période où la parole a été mise comme ça sur le devant de la scène, pas sous, où on a vraiment envie de crier, le nommer, c'est faire exister, etc. Mais en vrai, faire perdurer, c'est aussi faire exister, en fait, l'impression, le fait de, alors même si le livre, en tant que libraire, j'aurais envie de dire c'est hyper accessible. Non, c'est pas vrai. Le livre reste accessible à une certaine population, etc. Mais pour autant, il est déjà un peu plus accessible que quand il est peut-être en fanzine où il faut vous croiser, en fait, pour avoir vos mots. Là, bon, on peut se dire qu'il y a un peu plus de passeurs et de passeuses, encore une fois des grands mots, mais qui peuvent faire là, il y a des pépites et des choses. Enfin, voilà.
Ouais.
Mais j'essaye, vous voyez, de faire des ping-pong depuis tout à l'heure. Pour terminer, et avant votre lecture, j'ai adoré toute ton analyse, Marguerin, du cinéma. et des comédies romantiques. Et je me suis dit, mais c'est tellement génial, c'est dans d'autres thématiques. Mais oui, mais parce que, mais non, mais tout le, en fait, enfin, tout ce texte-là sur le cinéma et mais aussi sur la culture queer. Alors, j'ai appris, je ne connaissais pas le camp. Voilà, qui que je vais te laisser vraiment bien expliquer parce que moi j'ai retenu des choses, mais je veux dire mon process de pensée est sans doute moins clair que le tien. Mais le queer, le camp, le kitsch, les comédies romantiques, le mauvais goût. Et je me dis mais j'avais envie de dire cet article parce que tu fais tellement une démonstration en fait de style dedans. Que je me dis mais c'est brillant quoi. Il y a vraiment ce côté revalorisant cette pop culture qui a quand même. Enfin, c'est pas anodin en fait qu'il y ait une critique aussi quand même désagréable, notamment de ces comédies romantiques, de ces teen movies. Et c'était hyper intéressant d'avoir ton point de vue sur sur ça.
Oui, parce qu'on se range dans la poésie, mais on a des textes qui peuvent bifurquer un peu ailleurs. Et ça, moi, je suis très cinéphile, du coup, des fois, je vais mettre des critiques de films.
Voilà.
Histoire de. Mais ouais, en fait, je suis passé par la fac de cinéma et notamment j'ai fait une année d'échange en Angleterre où en fait la façon d'aborder le cinéma était complètement différente de celle qu'on a en France avec le courant des cultural studies, donc qui envisage la culture sous l'angle des rapports sociaux et des rapports de force dans la société, du coup avec les sons des représentations, de la visibilité, enfin on apprenait tout ce qui était ouais, le female gaze, le male gaze, enfin c'était enseigné à la fac en Angleterre, et c'est venu ensuite en France via Iris Bray, etc. Iris Bray, ouais.
C'est ouais.
Et du coup, ce texte c'était pour avoir un angle justement pas male gaze ou female gaze, mais plutôt gay gaze. On va dire sur est-ce qu'il y a un regard gay sur la culture et qu'est-ce que c'est. Et du coup, c'est là où j'ai utilisé le concept de camp, qui est en fait un mot pour dire un peu l'humour gay, comme il y a un humour lillois. Peut-être.
Sans doute.
Je l'ignore, vous devez le dire. Mais du coup, oui, est-ce qu'il y a un regard construit, un regard gay sur les œuvres culturelles? Et du coup, le camp, c'est un peu une façon d'envisager la culture dominante. Du coup, par exemple, les comédies romantiques, on va dire. Et de les envisager sous un angle ironique. Et est-ce qu'il y a, c'est aussi un goût gay pour certains produits, Mylène Farmer, Madonna. Pourquoi les gays aiment Mylène Farmer? En fait, le camp qui permet de répondre à cette question parce que ça va déconstruire un peu une forme culturelle en essayant de comprendre pourquoi, en quoi elle répond à des désirs, un imaginaire vraiment spécifique à une classe sociale, à un groupe social. Et voilà, du coup, tout ce fanzine, c'est s'appelle Le mauvais goût des femmes et des homosexuels. Et du coup, ça fait le lien entre les goûts féminins et les goûts gays masculins. Et voir comment ils se croisent. Par exemple, aimer la pop musique, les chanteuses, et en fait, tous ces produits culturels qui sont un peu dénigrés, et dont on va juger qu'ils sont futiles ou stupides, ou adolescents, infantiles. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est des mots qui sont très associés à l'identité gay. Parce qu'en fait, de mon point de vue, c'est un peu là où j'ai fait le pont, c'est que les mecs gays sont un peu perçus comme des attardés sexuels ou des éternels adolescents. Mais c'est des trucs aussi qu'on aime, enfin dans lesquels on peut tirer une forme aussi de joie. Je me tourne vers les PD au fond sur le canapé. Mais du coup, oui, enfin voilà, c'est bref, c'est un texte qui parle un peu de tout ça, quoi.
Mais oui, mais c'est c'est vraiment hyper intéressant. Et tu décryptes. Alors, c'est quoi le film Comment larguer en 10 leçons? C'était pas celui-là?
Oui,
c'est ça. Avec Matthew McConaughey. J'avais même oublié qu'il y avait Matthew McConaughey dedans. Mais c'est vrai que ça fait partie des films. Je sais pas. Enfin, c'est quoi? C'est les années 2000.
Ouais.
C'est pas 90.
2010, un truc plus tard. Comme ça.
Oh, ouais, je suis perdue dans mes comédies romantiques.
En fait, du coup, j'en profite pour vous conseiller. Une chercheuse française qui s'appelle et j'ai oublié son nom, c'est super.
Ah merde.
C'est pas Ginette Vincendo, c'est Ah merde. Elle a un blog hyper cool qui s'appelle... Eh ben, j'ai oublié aussi. Voilà. Mais je pense que je la cite. Bref, c'est une universitaire qui a introduit les études féministes du cinéma en France et qui a fait plein de textes sur la nouvelle vague où elle analyse la nouvelle vague sous l'angle du genre et c'est... un truc vraiment hallucinant à lire, c'est hyper cool. Et du coup, elle a beaucoup travaillé aussi sur les téléfilms. Et en fait, en France, on déteste les téléfilms. C'est vraiment un truc pour la ménagère qui va un peu s'abrutir dans la télévision. Et en fait, je vais retrouver son nom un peu plus tard. Cette universitaire, elle a regardé genre un millier de téléfilms français produits entre les années 80 et fin 90, elle s'est tout enfilée. Et en fait, elle les a analysés en disant, mais en fait, c'est un cinéma qui est hyper progressiste par rapport au cinéma d'auteur qui passe en salle avec des représentations, avec...
hyper normé.
Hyper... justement, avec des points de vue féminins sur des femmes seules, des femmes célibataires, des femmes précaires, des femmes... Et du coup, elle revalorise un produit culturel dénigré, etc. Et du coup, Et c'est une des lectures qui m'a beaucoup inspiré. Je vais retrouver son nom.
Personnellement, quel moment de suspense.
Ça vous dit rien ? C'est Genre Écran, le blog. Genre Écran. J'ai oublié son nom. Bref, un petit conseil. C'est très chouette.
Est-ce que vous avez envie de nous faire votre lecture ?
Oui.
Oui. Ouais.
Chouette.
On a préparé, parce qu'on voulait quand même évidemment coller au thème. En fait, ça c'est parfait parce qu'on a l'année dernière, on a écrit un petit manifeste pour une écriture sentimentale. Alors ça tombait à pic. Alors voilà, on va vous le lire et après on a choisi deux extraits de l'anthologie qui collent au thème aussi, bien sûr. Manifeste pour une écriture sentimentale.
Fait pleuvoir des images homosexuelles. Écrit comme un passif, comme une lope. Écrit comme une enculée. Prends le large des imaginaires virils. Débande-toi.
René Vivien et Nathalie Clifford Barnet sont tes mères adoptives et t'éduquent au lyrisme. Tu parles la langue saphique et embrases Céline Dion.
Utilise des métaphores bibliques, surnaturelles et gothiques. Enfuis-toi dans les bois. Convoque les animaux et les plantes d'appartement. Trouve le temps propre à l'amour, le rythme élastique et lent. N'oublie pas que l'on tète, que l'on suce, que l'on manque éperdument.
La dépendance affective et la drogue sont le moteur de tes poèmes amoureux. Tu bois les larmes vivantes de tes amantes. Tu épuises Roland Barthes.
Creuse dans ta mémoire pour comprendre les liens et la violence, la famille et les parents. Dis comment on s'enchaîne et comment on se déchaîne.
Sois sentimental et vulgaire et populaire. Réapproprie-toi ta langue bâtarde. Sois criarde, universelle, divertissante, gênante. Appelle-toi Johnny Depp et porte ta casquette à l'envers des culs cousus.
Trouve l'horreur dans le cucu la praline. Le sang et la chiasse dans la littérature à l'eau de rose. Compose de la variété française métaphysique, du chéri FM cosmique, du Lara Fabian de manoir hanté. Va à la fête foraine et monte dans des manèges.
Cœur confusion et cœur grenadine te doigtent dans ton féminin et ton sexe faible pour faire émerger ta force renversante. Tu deviens émotion hystérique à l'apogée des rênes lubriques.
Utilise tes cinq sens. Mais pense avec ton cul. Écris je t'aime tout le temps et au bon moment.
Sois dramatique et drama queen pour toucher à ta propre tragédie. Prends-toi pour Sophocle. Baise emphase et désespoir dans la même soirée.
Décris la personne aimée. Pas comme un paysage ou une peinture, mais comme un univers tout entier. Regarde par la fenêtre de ton immeuble et sois convaincu que tout le monde est touché, que ça touche tout le monde. Écris l'amour comme on bâtit un palais.
Ton hypersensibilité flingue ton entourage. Pendant que tu épouses ton centre, prends au sérieux les chutes. Les intellectuels bourgeoisent leur formalisme et ramassent la thune. Mais tu t'en fous. Tu es divinement chargé, sûr de là d'où tu viens, complètement incarné.
Décris les instants futiles comme des épopées. Les détails minuscules comme des batailles gigantesques. Transforme les moments ridicules et embarrassants en contes philosophiques antiques.
Use de personnages fleur bleue à fleur de con. Crois toujours à l'amour. Aime à en perdre la tête. Enflamme-toi. Sois niaise, romantique, sincère.
Merci.
Je me suis penché pour ramasser des choses. Machin défait que tu avais laissé par terre, c'était près du lit. J'ai porté la chaussette à mon nez pour savoir si c'était la tienne ou la mienne, et j'ai reconnu ton odeur de gamin. Pour moi, l'homosexualité, c'est ça. C'est deux garçons qui puent des pieds et se font sentir leurs orteils très fort, par amour. C'est toi, gigantesque au-dessus de moi. Tu t'essuies l'arrêt avec mon slip. J'aimerais documenter tout ça dans un carnet et faire des listes, remplir des colonnes avec tous tes machins, tout ce que t'as laissé partout, surtout dans mes creux, dans mes plis, dans les draps, les Kleenex, documenter l'été. Dans mon cosmos merdeux, tu symbolises la chaleur. Je ferme les yeux, et c'est de la chaleur que je ressens quand je t'imagine. Chaleur atomique, pureté, été, perfection de tout ton monde, de tout ce que tu es, tu contiens, les soleils, le cou, penché, tête inclinée, vers la lumière, joue, et ventre, ton ventre, c'est tout, le bas-ventre, la partie la plus tendre, délire des formes, agilité, été, quand on aime tout, et j'aime tout, tout ce que je pensais, qu'il fallait que je m'époumonne, que je chante avec le ventre pour faire tout sortir, vider ma peur d'être abandonné et seul, tiens, mets ta main, tout se passe ici, dans le ventre, tu savais? Tu savais que ton ventre, c'est ton troisième cerveau? Ah bon? C'est quoi le premier? Le premier cerveau, c'est celui qu'on sent derrière les yeux, celui qu'on entend bouger, qu'on pourrait toucher si on enfonce un doigt par la narine. C'est ton cerveau de reptile, celui qui régule les contractions du corps quand il se met au monde, qui balance par saccade des poisons jusqu'aux organes. Le deuxième cerveau, c'est ta peau. C'est ton circuit battu et rouge, un océan de cellules sans cesse renouvelées et souillées, comme des vagues, des points de pression et d'information, de circulation. Le troisième cerveau, c'est ton ventre. Tu savais qu'un estomac humain contenait assez de neurones pour digérer une vache? Tu savais qu'en fait, on respirait par le cul? Tu savais que nos intestins pouvaient prendre des décisions à notre place? La notion de libre arbitre est toute relative. Quand tu te penches sur tes boyaux, ça cogite grave là-dedans, ça élabore des plans malgré nous et contre nous. Je passe mes jours éveillés, à guetter le claquage, le moment où la tuyauterie va péter, le moment de l'AVC. Tu savais que j'avais tellement de peine, que mon chagrin était tel qu'il aurait pu plier l'espace-temps et nous ramener à celui des fêtes. Putain, j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas fait la fête. La vraie, quand tu sors de la musique, éclaboussée par toutes nos faiblesses, toutes celles qu'on a brûlées ensemble afin d'être nus, déshabillés par les drogues, ébordés, langés, élevés. Tu savais que tout entier je ne suis rien, qu'il me faut être au moins deux, et c'est déjà peu, c'est trop peu, et j'ai trop peur, ça m'a jamais suffi d'être aimé et d'être gentil, j'ai des besoins de faire entrer en moi des villes, de replier en moi toutes les immensités, goûter et regoûter encore à tout ce que le monde a de perler, et mort, et mordre, et donner. J'ai marché pour me perdre dans des régions reculées de villes urbaines, je voulais voir le barrage de Cusset où il est écrit sur une mosaïque ancienne, les forces motrices du Rhône. J'y suis allé dans l'idée de me faire dévaster par les remous marrons d'une énergie domptée. J'ai retourné ces mots, forces motrices, dans mon cerveau, tellement je les aimais, tellement je les trouvais beaux, un peu comme turbo, diesel, sport, injection, ce qui me bouge. Je suis monté sur le barrage pour me faire gronder. Ça poussait grave à travers le barrage et c'est ça qui produit l'électricité. J'ai pensé à tout ce qui me poussait au travers, cette pression, ce courant qui fait que je mets un pied devant l'autre malgré tout. Je repose sur mes forces motrices. Les hommes, j'étais dans ce terrain vague, merdique, de ville urbaine pour les hommes. J'étais là pour en trouver, pour me trouver des hommes, des silhouettes, dans des bagnoles, des bonnets et des capuches, des allures discrètes, des déplacements fragiles, dans l'entrebâillement des villes, dans des lieux défaits qui n'expriment rien, si ce n'est leur fonction passée et détournée à usage sexuel. Il fait froid. Je me sens pas de sortir ma queue, mais j'aimerais juste en toucher une. Je continue ma route sur les bords d'un fleuve marron et chiasseux, qui gronde de sa petite colère un son qui m'enveloppe comme un drap sec. Je fume, clope sur clope, car j'arrive pas à respirer sinon. Votre temps d'attente est estimé à toute la vie. C'est l'impression que ça me donne quand je t'envoie un texto pour avoir des news. Savoir si tu souffres de cette absence autant que moi et que tu attends une minute, une heure, une après-midi avant de larguer ta réponse froide. C'est triste, la vie, bordel. Et c'est toute la vie. Quand j'ai appris que c'était toi qui voulais le revoir, et pas lui. Se donner du mal, s'en offrir, se faire don d'une peine qui aide à vivre. J'écrirai pas sans cette peine et pourtant je rendrai tout mon mal pour qu'elle s'arrête, qu'elle me sorte du ventre comme un feu grégeois stupide. Il me reste qu'à trouver ma joie dans mes restes. Ça va être chaud. Pourtant, on s'est illuminé, puis on a connu la vitesse. J'ai mal, putain. Et pourtant, la fin, c'est aussi le commencement, tout ça.
Salle des fêtes. Toujours est une forêt immense qui abrite rivières et clairières. Seules les humaines, ayant conscience de leur vivant, accèdent à cet endroit magique. Pour toutes les autres qui s'ignorent, c'est la mort. Le 3 février est une date anniversaire, est une célébration infinie de la vie et du présent. Humaines et non humaines se retrouvent à l'orée des bois pour entamer les festivités et mettre en place les ateliers d'expression corporelle. On apporte victuailles, vin, sang, tissu. Chacune arrive apprêtée et peau brillante. Chacune bave sur l'épaule de l'autre. 2. L'expérience de l'amour. Le soleil s'intensifie, tandis que la nuque trempée de Myriam ploie contre un coussin de mousse. Puis, ses cheveux sont tirés par la main d'une nouvelle. Elle s'appelle Salle des Fêtes. Elle paraît timide, autant que trop sûre d'elle. Toutes n'en reviennent pas de tant d'allure. Bertie à Agnès. On dit qu'elle est l'initiatrice et que sa langue, par ton sexe, enseigne la philosophie. Après avoir roulé une pelle baveuse à Clotilde, Salle monte en haut du rocher de la rivière. Elle est nue avec seulement des baskets aux pieds. Toutes arrêtent le workshop commencé. Salle parle très fort et distinctement en articulant bien. Savez-vous ce qu'est le lubrifiant discursif? Nous œuvrons pour la cohésion sociale. Nous œuvrons pour l'harmonie entre les êtres. Nous sommes les princes sacrifiés. Maintenant est le lieu de la résistance. Folle de l'approche révolutionnaire et de la portée de son propos qui inclut le groupe, toutes ont plus encore le feu et commencent à danser très sensuellement. Elles sucent les torses, lapent les mamelons, caressent les peaux, marquent des temps d'arrêt avant d'enfoncer leurs doigts qui provoquent les cris. Pendant que toutes s'excitent, mêlées à la boue du bord de rivière, Salle entraîne Bélissante dans sa grotte pour lui adresser de l'amour et du sexe immédiat. Surtout, elle lui rappelle qu'elles se sont rencontrées 10 siècles auparavant dans un château. Salle des Fêtes s'appelait alors Désidérade et Bélissante s'appelait déjà Bélissande. Salle se lève dans le contre-jour de l'entrée de la grotte et entonne un chant. Ta bouche, Salle, tu es divine, grave, déposée, chaude. Le contour de tes yeux brille sur ton corps enclenché, vivante. Acide sous le pubis, mal rasé. Tes bras fins portent le mien à ta bouche salivée. Fine rose, absorbe tes yeux d'eau. Soupire tes pupilles affolées, en sueur foucade, suave, emmielée, du linge pas propre, savante. Bélissande revient au moment présent et dans le trouble de ses larmes nostalgiques ne voit pas arriver Salle à califourchon sur ses genoux, sentante de mouille et de l'herbe plein les cheveux. C'est Désidérate qui parle et sans fin, en pleurs, répète. Je me souviens, tu me sers du mescal dans des coquilles de coco vides. On s'embrasse debout, puis frénétiquement contre le sol. Je me souviens, ton sexe épaisse ma bouche. Tes lèvres entre les miennes, émues de chair promise. Ma langue fouille et cherche la mer, descend et remonte, te branle doucement. Mon poing appuyé entre ta chatte et ton anus. Mange ta bouche près de ton cul. Mon nez dedans, ta bave dehors. Toute la soirée, elles se regardent dans les yeux et se rappellent que ce qu'elles aiment, c'est baiser en plein jour, jouir des ouvertures de chacune, le soleil dans les yeux, les larmes contre la peau. 4. On a peur d'aimer quand on a peur de mourir. Emprise aux démons irrationnels, sale vacille pour un rien. L'amour de Bélissande réel comme ses visages sous mes yeux. Tout ce que je veux, c'est le chanter, se dit-elle. Tout ce que je veux, c'est le mettre en poème avec elle. Rien d'autre n'existe, même pas le sang frais des mortels. Sale défaite et Bélissande disent ensemble l'amour des maîtresses immortelles. Si Eckhart Tolle existe, le présent est un leurre. Si j'étais une simple vivante, je serais toi. J'habiterais à la lisière de tes cheveux pour renifler ton crâne. Tu porterais un jogging pour que je te touche mieux. J'ai passé mes doigts comme si c'était les miens. Ton bassin s'est soulevé et j'ai continué. Ton bassin à la hauteur de mon poignet. Toi qui insistes seul contre ma paume. Si tes yeux mouillent les miens, alors je lécherai ton ventre et mangerai ton slip. Je soulèverai les bords avec ma langue comme une chienne affamée. J'aimerai les interstices de ta bouche contre cet arbre. Mon doigt sur le tissu mouillé, mon nez dans le chaud de ta mouille, mon sexe lappe ton jus d'éternel, mes lèvres nacrées happent. Deux doigts à la lisière de ton cul mouillé, suce bruyamment. J'ai déliré chaque fois qu'immobile, le soleil nous aveuglait. Le sang coule sur nos lueurs d'éther nèbres. Emmêlés, les genoux sales et les yeux noirs, elles caressent leur nuque en fermant les yeux. La mue commence doucement jusqu'au petit matin. Toujours bercés par les voix de Bélissande et sale, les corps disparaissent en exuvie diaprée.
Merci. Ça fait du bien, hein, n'est-ce pas? Moi, je trouve qu'il se passe très bien ce premier date. C'est plutôt pas mal. Pour terminer mon petit moment privilégié, n'est-ce pas? J'ai imaginé faire un petit jeu langue d'amour. Alors, rien de très compliqué. C'est juste des mots qui vous viendraient comme ça directement, spontanément au cerveau.
Sans réfléchir.
Sans réfléchir. Donc pour vous, puisque on parle d'amour, qu'on vient d'être dans vos mots, etc. Mais quel serait le mot, le seul et unique mot qui désignerait l'amour ? Sébastien.
Ça va pas, toi-ci.
Mais si, non, mais spontanément, je sais pas, ça pourrait être une chaussette ou ça pourrait être...
Ah ouais, sinon, mais c'est trop dur, j'ai déjà trop réfléchi, en fait.
Bah, ou un verbe Ah, c'est complètement un fiasco, mon jeu. Moi, j'ai joué et je trouvais que c'était drôle.
Animal.
Pour un mot?
Pour amour.
Chaude. La chaude.
Et donc, si c'était un verbe?
Ah, un verbe.
Un verbe.
Brûler.
Tu sais.
Ah ouais. Qui est le PD des deux?
On se pose toujours la question.
Un lieu?
Ah, si l'amour était un lieu.
Oui.
Une traboule, hein, parce que j'en fais la promo de Lyon ici. Une traboule, oui.
Moi, je sais pas, un club.
Un club.
Pourquoi pas, ouais.
Et une chanson?
Ah, je sais ce que tu vas dire.
Non, toi, tu vas dire...
Vas-y.
Non, attends, bah,
je
commence.
Ah oui, je sais. Toi, tu vas dire...
Amoureuse de Véronique Sanson.
Voilà, amoureuse de Véronique Sanson. Mmh. Et moi, je vais dire...
Je t'emmènerai en
voyage.
Yann Tell, c'est ça.
Yann Tell, ouais. Ben. J'ai cette chanson qui me revient en boucle depuis 20 ans. Faut nous améliorer le pot, je sais pas pourquoi.
Merci beaucoup pour ce super moment, pour cette inauguration de festival absolument fabuleuse. Merci Elodie, merci Marguerite. Ben,
merci
à vous tous. Alors, heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie d'Élodie Petit et de Marguerin Lelouvier, à l'occasion de la parution de leur anthologie douteuse chez Rotolux Presse. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Sensible, désir, sexuel, le festival d'amour.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.